Bon réveil si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les échanges ont été tendus hier soir à l'Assemblée nationale sur l'utilisation par les forces de l'ordre des lanceurs de balles de défense. Pendant ce temps, le Conseil d'État se penchait sur la question. Nous étions à l'audience, compte rendu à venir. Vous entendrez aussi la mise en garde d'un député centriste à propos de la loi anti-casseurs. Il a évoqué hier le régime de Vichy sous de vives protestations dans l'hémicycle.
Une autre plateforme de débat sur Internet est lancée par les Gilets jaunes. Le site s'appelle Le Vrai Débat. Il propose de contribuer sans passer par les quatre thèmes définis par le gouvernement.
Dans cette édition, nous reviendrons sur l'arrestation au Venezuela de plusieurs journalistes, dont deux Français avec leurs producteurs. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont défilé à l'appel de l'opposition.
La première ministre britannique, Theresa May, a rencontré l'opposant Jeremy Corbyn. Rendez-vous de la dernière chance pour sortir de l'Union européenne avec un accord, vous le comprendrez.
Et puis le gouvernement néerlandais accepte de ne pas expulser 700 enfants migrants et leurs parents. Nous irons à La Haye dans une dizaine de minutes. Pas un week-end sans suspicion, pas un débat sans éclat. Les lanceurs de balles de défense, utilisés encore samedi dernier face aux Gilets jaunes, ces LBD sont décriés. Ce matin, le quotidien Le Parisien détaille un rapport écrit par un policier d'une compagnie de sécurisation et d'intervention. Il reconnaît s'être servi samedi à Paris de son LBD au moment où le Gilet jaune Jérôme Rodriguez a été blessé à l'œil. Un lien formel n'est pour le moment pas établi. Mais déjà, la CGT et la Ligue des droits de l'homme veulent empêcher l'utilisation de cette arme, de ces LBD. Après un rejet de leur demande au tribunal administratif de Paris, le Conseil d'État s'est penché hier soir sur la question. Audience de 3 heures, suivie pour France Culture par Hélène Malka.
Pour Maître Spinozzi, qui défend la Ligue des droits de l'homme, les règles d'utilisation du LBD ne sont pas adaptées à des manifestations. Les agents doivent pouvoir viser précisément, jamais la tête, en étant sûr que personne ne se mette en travers du tir. Condition impossible à rassembler dans un tel cas de figure. Maître Questio, qui défend la CGT, va dans le même sens. Des manifestants mutilés, ça ne doit pas faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité, affirme-t-elle. La parole est ensuite à Pascal Léglise, qui représente le ministère de l'Intérieur. Pour elle, nous sommes actuellement en présence de véritables émeutes urbaines. Les agents ont droit à la légitime défense. Elle poursuit, sur 9228 cas d'usage du LBD, il n'y a eu que 111 signalements. Alors oui, conclut-elle, cela reste une arme qui peut être parfois mal utilisée, tout comme un avion peut être mal utilisé par son pilote, mais il est irresponsable de la supprimer avant samedi prochain, car les agents n'auront pas le temps de s'adapter. Éric Morvan, directeur général de la police nationale, confirme. Réponse de la partie adverse par la voix de Maître Spinozzi, cela fait un an déjà que cette arme est dénoncée par le défenseur des droits. Les pouvoirs publics n'ont pas agi. Ce n'est pas aux manifestants, aujourd'hui, de payer cette inaction. Quant à Maître Sophie Mazas, qui défend plusieurs manifestants blessés à Montpellier, elle affirme que le rassemblement en question n'avait absolument rien d'une émeute et qu'elle a toutes les preuves dans le dossier pour l'établir.
L'ordonnance de référé sera rendue au plus tard demain matin. Et avant même la décision du Conseil d'État, déjà, le Premier ministre Édouard Philippe se montre prudent, plus prudent en tout cas que Christophe Castaner et Laurent Nunez place Beauvau. Édouard Philippe répondait hier à Fabienne Sintès chez nos confrères de France Inter.
Je dis qu'il y a une enquête administrative, que la justice est saisie et que je ne fais pas le travail de l'enquête administrative et de la justice, que je serai attentif à ces résultats. Alors, croyez-moi, je serai extrêmement attentif à ces résultats. Que le ministre a dit lui-même, et il a eu raison de le dire, que tant qu'il n'aurait pas les résultats, il n'allait pas se prononcer sur le fond de l'affaire.
Le premier réflexe, c'est de dire non, ils n'ont pas tiré.
S'il y a eu une faute, elle sera évidemment sanctionnée. Mais s'il y a eu une faute, et permettez-moi d'attendre le résultat de l'enquête pour savoir si oui ou non il y en a eu une, il faut qu'on transforme à la fois notre doctrine d'emploi, nos équipements, peut-être notre droit. La loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale, elle porte aussi sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que des gens arrivent avec des boules de pétanque et des marteaux dans une manifestation ?
Et voici quelques chiffres en appui. Selon le ministère de l'Intérieur, ces lanceurs de balles de défense ont été utilisés près de 9200 fois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. 111 enquêtes ont été ouvertes par l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Alors Édouard Philippe évoquait à l'instant la loi en discussion à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi anti-casseurs, une proposition de la droite sénatoriale largement remaniée en commission à l'Assemblée. Dans l'hémicycle hier, les députés en ont adopté sans vrai consensus. consensus certains articles, notamment le nouveau délit de dissimulation du visage. Il pourrait être assorti d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Adoptée également cette nuit, la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions administratives pour manifester. Cet article 2 est critiqué jusqu'au sein de la majorité. Je vous propose ainsi d'écouter Charles de Courson, centriste, ancien député UDI. Il est aujourd'hui membre du groupe Liberté et Territoire. Il évoque sans détour le risque d'une atteinte grave aux libertés fondamentales. C'était hier dans l'hémicycle.
On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, hein, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie. Alors réveillez-vous, y compris les nombreux collègues de la majorité qui ne partagent absolument pas cette position et qui savent que c'est une folie que de voter cela.
Cela a en tout cas été adopté la nuit dernière, c'était le député centriste Charles de Courson. Le vote solennel en première lecture de ce projet de loi anti-casseurs est programmé à mardi prochain. Édouard Philippe, prêt à sanctionner des policiers en cas de faute avérée, donc nous l'avons compris, il a défendu le projet de loi examiné en ce moment. Sur France Inter hier soir encore, en répondant aux auditeurs, le Premier ministre s'est prononcé pour un rapatriement des djihadistes français actuellement aux mains des Kurdes en Syrie ou en Irak. Sur le reste peu de prises de position. Édouard Philippe laisse la porte ouverte à un référendum qui ne sera pas, dit-il, d'initiative citoyenne. Il se dit favorable à la suppression totale de la taxe d'habitation, mais il est sceptique quant à la suppression de la TVA pour tous les produits de première nécessité. Après ce journal, Frédéric Seyss reviendra dans son billet politique sur cette prise de parole d'Édouard Philippe et sur ses réponses de Normand. Réponse évasive, donc on l'a compris. D'ici là, nous nous penchons, nous, sur le débat sur Internet qui continue. 1,5 million de contributions ont déjà été remises au gouvernement. Mais face à la plateforme de l'exécutif, certains gilets jaunes lancent un autre site. Lui a été imaginé par l'entreprise Cap Collectif. Lui aussi, par cette même entreprise, a été imaginé. Mais il n'est pas construit autour des quatre grands thèmes imposés. La plateforme s'appelle Le Vrai Débat, Anne Fauquemberg.
Le Vrai Débat, c'est en réalité la fédération de 5 initiatives déjà lancées au niveau local. À la demande de Gilets jaunes d'outre-mer, puis de la région PACA ou encore de Bretagne, la start-up Cap Collectif avait fourni gratuitement, dès novembre dernier, des plateformes internet type boîte à idées pour aider les citoyens à organiser leurs revendications. Le site mis en ligne hier est beaucoup plus ambitieux. Contrairement à celui mis au point pour le gouvernement, il propose de contribuer par catégorie, mais aussi librement. Lydie Coulon est l'une des 70 bénévoles Gilets jaunes à s'activer autour de cette initiative dont elle se sent partie prenante.
C'est-à-dire qu'on a écouté tous les conseils par rapport à la façon de le paramétrer. On a mis plusieurs sections juste pour que les gens se retrouvent un petit peu et que ce soit plus facile à trouver des idées et pouvoir poster leurs revendications. Mais vraiment, on peut tout écrire dessus. Ça va nous permettre de faire remonter les revendications, de les classer par poids, par nombre de votes, mais aussi se rendre compte qu'est-ce qui rassemble la population française et qu'est-ce qui divise dans les sujets.
Le processus est également clairement énoncé. Une fois les revendications synthétisées, à la mi-mars, des conférences citoyennes délibératives seront organisées dans 9 grandes villes, avec des participants désignés par tirage au sort pour, je cite, « co-construire les solutions ». Puis viendra l'étape du portage des résultats de ce débat. Les citoyens, à titre individuel ou collectif, iront saisir les élus, les institutions, et cela pour exiger une prise en compte de leurs propositions, des initiatives qui seront évidemment documentées sur la plateforme. L'objectif étant de créer un vrai rapport de force avec le gouvernement.
Eux réclament plus que le geste fait déjà par le gouvernement au début du mouvement. Les retraités sont appelés à défiler un peu partout en France aujourd'hui à l'appel de 9 associations. Elles réclament l'annulation de la hausse de la CSG pour l'ensemble des retraités ainsi qu'une revalorisation des pensions. Aujourd'hui aussi, 2 verdicts sont attendus. Verdict dans le procès des deux policiers de l'ancien 36 quai des Orfèvres. Ils sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne dans les locaux de la BRI en 2014. L'avocat général a requis 7 ans d'emprisonnement à leur encontre. Et puis ce jeudi aussi, on attend le jugement, cette fois jugement dans l'affaire du mur des cons, du nom de ce trombinoscope affiché dans les locaux du syndicat de la magistrature, des personnalités épinglées, principalement de droite et d'extrême droite.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'opposition vénézuélienne aurait rencontré l'armée du pays.
C'est en tout cas ce qu'affirme Juan Guaido dans une tribune publiée hier soir sur le site du New York Times. Des réunions clandestines, explique l'opposant qui s'est proclamé président du pays. Réunion avec des représentants de l'armée et des services de sécurité du pays. Juan Guaido concède d'ailleurs que le soutien de l'armée vénézuélienne est crucial pour parvenir à renverser le président élu, Nicolas Maduro. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à son appel de manifester. En marge de cette mobilisation dans le pays, des journalistes étrangers ont été ciblés par les autorités. Deux reporters espagnols ont ainsi été arrêtés dans la soirée, tout comme deux journalistes français et leur producteur. Ils travaillent pour l'émission Quotidien de la chaîne TMC et ils ont été interpellés à Caracas, Omar Waman.
Selon plusieurs sources diplomatiques, les deux journalistes français et leur producteur ont été arrêtés alors qu'ils couvraient un rassemblement de l'opposition dans le centre de Caracas à proximité du palais présidentiel. L'équipe de l'émission de télévision Quotidien filmait le prestigieux bâtiment quand ils ont été interpellés par les forces de l'ordre. L'ambassade de France à Caracas, prévenue peu après l'arrestation, est depuis mobilisée pour obtenir leur libération. Elle demande expressément aux autorités vénézuéliennes l'exercice de la protection consulaire conformément à la Convention de Vienne et notamment le droit de visite. L'interpellation des journalistes français est survenue après celle de deux autres reporters de nationalité chilienne arrêtés la veille au même endroit et dans les mêmes conditions. Ils attendent leur expulsion. Ces dernières années, plusieurs correspondants étrangers ont été refoulés ou expulsés du pays faute de visa et d'accréditation.
Précisons que les reporters chiliens ont, ça y est, été expulsés du Venezuela. De tractation, il en est aussi question au Royaume-Uni en ce moment. Et comme la première ministre s'est fait étriller par le négociateur Michel Barnier hier, qui refuse de renégocier l'accord sur le Brexit, eh bien Theresa May se tourne vers l'opposition en interne. Preuve que tout est envisageable. Theresa May et Jeremy Corbyn se sont rencontrés hier, Antoine Gignot.
C'est la première fois qu'ils se voient en tête à tête depuis le début de la crise. 45 minutes face à face, le temps pour Theresa May de s'intéresser aux propositions du Parti travailliste. Jeremy Corbyn plaide pour un Brexit en douceur. Le Royaume-Uni, dit-il, doit sortir de l'Union européenne tout en restant dans une union douanière avec les 27. De cette façon, tout le monde garde les mêmes règles, les mêmes taxes, plus besoin de reconstruire une frontière en Irlande. Problème résolu. Le chef de file de la gauche demande aussi des garanties sur les droits des travailleurs et les standards en matière d'environnement. Le gouvernement promet de s'y intéresser et va consulter dans les prochains jours les responsables des syndicats. En fait, tout est une question d'arithmétique. Si Theresa May s'engage dans cette voie, elle perd définitivement le soutien des Brexiteurs les plus durs, ceux qui demandent la fermeture des frontières et le contrôle de l'immigration, mais elle réussit potentiellement à rallier à sa cause les 25 députés travaillistes qui ont, cette semaine, refusé de se prononcer en faveur d'un report du Brexit parce qu'ils veulent une sortie immédiate. Peu importe donc si les soutiens viennent de droite ou de gauche, à 57 jours du Brexit, c'est désormais le seul raisonnement pragmatique de la Première Ministre.
Antoine Gignot, notre correspondant à Londres, partons maintenant aux Pays-Bas, où le gouvernement a décidé de mettre fin aux procédures d'expulsion pour environ 700 enfants et leurs parents. Une partie de la population s'était mobilisée pour les protéger ces derniers jours, l'Église notamment. Mais cette régularisation n'est pas du goût de l'opposition néerlandaise, les précisions cette fois d'Antoine Moutot.
Le kinderpardon, c'est comme ça qu'on appelle aux Pays-Bas l'amnistie accordée aux enfants en situation irrégulière. Jusqu'à hier, ils étaient à tout moment menacés d'expulsion imminente. Désormais, ils peuvent dormir les yeux fermés, car après de longs mois de discussions, le gouvernement a enfin décidé de les laisser tranquilles. Du moins, leurs dossiers doivent tous être reconsidérés et beaucoup s'attendent ici à ce que la grande majorité d'entre eux obtiennent un permis de séjour. Au total, enfants et adultes confondus, ce sont environ 1300 personnes qui sont concernées par cette amnistie. De quoi provoquer l'ire d'une partie de l'opposition, notamment de Geert Wilders, chef du parti d'extrême droite PVV, comme en témoigne cet extrait diffusé par la télévision publique néerlandaise.
À cause de votre attitude au gouvernement, la moitié de l'Afrique pense maintenant qu'ici, aux Pays-Bas, il y aura toujours des chiffres-molles comme vous pour leur dire « D'accord, vous n'aviez pas le droit de venir ici, mais amnistie pour tous. En faisant ça, vous détruisez les Pays-Bas et vos électeurs ne croient plus en vous. »
Selon un récent sondage, 48% des Néerlandais soutiennent l'amnistie pour les enfants en situation irrégulière, 46% sont contre. Ces derniers mois, des responsables religieux avaient pris parti pour ces enfants dans une église de La Haye pour empêcher l'expulsion d'une famille arménienne. Pendant 3 mois, des pasteurs protestants de tout le pays se sont relayés afin de célébrer une messe sans interruption, la police ne pouvant pas procéder à des interpellations au cours d'un service religieux. Hier, l'église a enfin mis un terme à la messe. En contrepartie de cette amnistie pour les enfants en situation irrégulière, le gouvernement a toutefois annoncé vouloir accueillir moins de réfugiés de régions en guerre que ce qui était conclu avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Elle fait déjà l'objet d'une guerre commerciale dans certains pays, en Chine notamment ou en Corée du Sud. En France, la 5G devrait arriver en 2020. Les enchères seront lancées à l'automne. Voilà ce qu'annonce ce matin Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État en charge des télécoms. Seul l'est de la France va profiter ce jeudi d'éclaircies, particulièrement le sud-est d'ailleurs, alors que la pluie va arriver par l'ouest. Gare encore au verglas sur le nord du pays. Comptez moins 2 degrés ce matin à Lille, 0 à Paris, 3 à Rennes, 8 degrés à Marseille. Des températures qui vont se radoucir demain. Comptez même cette nuit 0 à 8 degrés.